Oxford.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Bonsoir, donc Fluxfor, nous sommes toujours au festival Entrevue pour sa 30e édition. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Olivier Legras, de Caroline Châtelet.
Bonsoir.
Et d'Emmanuel Parot, réalisateur de Sac la mort.
Oui, bonsoir.
Donc Sac la mort est un film de la compétition internationale, dont vous êtes le réalisateur. C'est votre second long métrage. Vous avez réalisé un certain nombre de courts-métrages avant celui-ci. On pourrait commencer simplement par le titre, Sac la mort. Qu'est-ce que c'est ce Sac la mort qui a un rôle très important dans l'histoire?
Alors, Sac la mort, c'est du créole, de la Réunion. Donc un créole très francisé, en fait, qui fonctionne beaucoup par contraction. Et en fait, le Sac la mort, c'est une pratique, on va dire, de... On peut appeler ça de sorcellerie, mais au sens où il existe des pratiques du même ordre en France métropolitaine, en Bretagne, en Normandie, dans la Creuse. Mais à La Réunion, ça prend une autre forme. C'est une pratique que j'ai découverte récemment et je n'ai trouvé aucune étude d'anthropologie sur le sujet. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à trouver des sacs, voire même des cartons à la croisée des routes, dans certaines routes au-dessus du village où je faisais mes repérages, et que j'ai commencé à poser des questions, que ce soit aux personnes qui m'accompagnaient dans les repérages ou aux personnes qui ont joué dans le film ou à des gens que je connaissais comme ça dans mon cercle de relations, tout le monde était absolument au courant de ces pratiques. Donc le sac la mort, c'est... vous pensez être victime d'un mauvais œil, ou bien vous avez un mal très concret, une blessure, ou je ne sais pas, moi, une sorte de gros bouton purulent qui n'arrive pas à se soigner. Eh bien, vous avez le choix, vous pouvez aller voir le médecin, mais comme on n'est jamais sûr vraiment que le médecin va bien nous soigner, et comme en plus le médecin ça coûte cher, sachant que c'est essentiellement des gens qui viennent d'un milieu pas très fortuné, hein, on complète ou alors on substitue ces soins par on va voir le guérisseur qui va prendre votre mal, qui va le mettre dans un sac plastique et qui va vous demander à vous si vous êtes autorisé ou à quelqu'un qui peut porter ce sac sans prendre le mal sur lui, d'aller le déposer à la croisée des chemins, qui sont des lieux que tout le monde connaît, et sur lesquels, si une voiture roule dessus, ou si quelqu'un marche dessus, ou s'il le prend pour l'enlever de la route, parce qu'il se dit que ça va provoquer un accident, le mal sera attrapé par cette personne. Le mal ne disparaît jamais, mais le mal se transmet. Et donc celui qui a son mal enfermé dans ce sac sera libéré de son mal. Voilà.
Parce qu'en fait, le personnage principal, Patrice, a recours à ce type de procédé à un moment donné dans le film parce qu'il est victime de malchance. C'est-à-dire que ça commence par la mort de son frère. Le film démarre sur cette question-là. Et puis, progressivement, il perd sa maison. Enfin, on a le sentiment que c'est un peu une réécriture du livre de Job.
Oui, absolument, je n'avais pas pensé, mais c'est exactement ça. Il y a un parcours christique hein, de la part de Patrice qui va se retrouver dépouillé de tout. Dépouillé aussi, on peut voir beaucoup de raisons à ça, c'est-à-dire que ne pouvant pas et ne sachant pas, parce qu'il n'est pas violent, c'est pas quelqu'un de violent, il ne peut pas répondre à la demande de sa mère d'aller venger la mort de son frère et d'aller tuer l'assassin de son frère. Et du coup, il est maudit. Et comme il est déjà maudit de toute façon en étant un alcoolique, quelqu'un qui a raté sa vie et qui est maintenu à l'écart de la famille, eh bien, oui, l'idée qu'il aurait marché sur un sac la mort et l'idée d'y croire, puisque ça lui est suggéré par un ami qui est plus un mauvais génie d'ailleurs qu'un véritable ami, c'est une idée qui va finir par s'imposer à lui. Et qui d'ailleurs... on va peut-être pas raconter tout le film.
Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est votre film. On n'a pas de problème avec le fait de révéler la fin.
Bah, Et effectivement, le, on va dire le guérisseur va le guérir, mais il ne sera pas vraiment guéri, puisque ensuite il va quasiment assassiner l'ami de sa voisine. Pour moi, c'est une manière de marquer. Il y a les croyances plus ou moins animistes, mais il y a aussi le social. Et celui qu'il matraque, c'est quand même une belle gueule. Un type qui a tout l'avenir devant lui, qui est amoureux de la jolie voisine, qui a toute la vie devant elle pour réussir, alors que Patrice est quelqu'un qui ne peut plus croire qu'il va s'en sortir ni réussir sa vie. Il y a une forme de jalousie, évidemment, de sa part contre ce voisin, et c'est ce qui finalement va le motiver pour devenir violent. Ce sont des raisons sociales, c'est pas des raisons culturelles.
Alors justement, ces raisons sociales, vous faites un portrait aussi quelque part de l'île de la Réunion, avec le choix du créole par exemple, avec le choix de ces personnages assez marginaux, la présence aussi de cette croyance, le sac à la mort. Est-ce que, comment vous êtes venu à ce sujet-là et comment vous êtes arrivé à la Réunion ?
Bon, ça risque d'être un petit peu long, vous m'arrêterez si jamais je déborde et si je me perds en route. En fait, j'ai débarqué à la Réunion il y a 10 ans maintenant. Pour gagner ma vie, je fais des ateliers de pratique artistique depuis pas mal d'années. Et là, qui est portuaire, c'est le seul port de l'île. C'était une ville donc communiste et Vau-en-Velin était communiste. Et donc, ces deux villes qui se sont jumelées. Et là, le président d'un centre social de la ville était lui-même d'origine réunionnaise. À Vau-en-Velin, il y a 46 nationalités qui coexistent, et donc lui, il était réunionnais. Il avait quitté l'île 14 ans auparavant, visiblement sur un drame, et depuis 14 ans, il n'avait même pas appelé son père ni ses frères et sœurs, même pas un coup de fil. Et il s'en est ouvert au groupe, et il a décidé de faire un voyage avec 15 adolescents. Et aussi, ces adolescents étant majoritairement d'origine maghrébine, aussi pour leur prouver que eux qui se plaignaient beaucoup de la France, lui, dans sa famille, ils avaient des origines liées à l'esclavage, et qu'il fallait aussi qu'ils s'ouvrent un peu les yeux et les oreilles, et qu'ils voient ce que d'autres gens avaient subi. Lui-même s'en étant sorti, il était pompier et il avait un métier, il gagnait bien sa vie et il voulait les convaincre qu'il ne fallait pas qu'ils lâchent. Donc on est parti là-bas et moi j'encadrais le groupe puisqu'il devait réaliser 3 petits films, et notamment un des films c'était sur la famille de cette personne réunionnaise. Et il nous a emmenés dans son village, qui ne ressemble pas du tout à une vision touristique de la Réunion. Bien sûr, on n'était pas à Saint-Gilles ou dans des lieux de tourisme, mais plutôt dans les hauteurs de l'île, on appelle les Hauts. Ça s'appelle les Hauts. C'est en fait des villages qui se sont implantés au-dessus de la limite de culture des champs de canne à sucre, là où les anciens esclaves, une fois que l'esclavage a été annulé, donc rappelons-le quand même en 1870, c'est quand même très récent, hein, puisqu'il y a eu une première période où l'esclavage a été annulé, puis Napoléon Ier l'a remis en route, hein, et ce n'est qu'en 1870 que réellement à La Réunion, l'esclavage a été aboli. Donc à ce moment-là, les maîtres ont eu l'obligation de donner des bouts de terrain à leurs anciens esclaves pour qu'ils puissent se construire une maison, puisque ce n'était plus l'esclavagiste qui avait à loger ses esclaves. Donc ils se sont implantés là, à l'endroit où les maîtres voulaient bien leur laisser un peu de terre, donc au-dessus de la limite de culture des champs de canne à sucre. Et en fait, ces villages sont restés des lieux, le terme de ghetto est un peu pas tout à fait adapté, parce que à La Réunion, on n'en est quand même pas là, mais c'est des lieux où majoritairement vivent là des descendants des anciens esclaves. Donc essentiellement ce qu'on appelle des cafres, c'est-à-dire les esclaves originaires de l'Afrique, mais aussi des malgaches. Voilà. Et puis ensuite, il y a d'autres, dans les mêmes villages, il y a certains quartiers qui ont été occupés par les malbars, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés après la fin de l'esclavage, qui sont des engagés volontaires, donc qui ne répondaient pas aux critères du code noir et qui avaient donc le droit de se marier, de garder le contact avec leur village, d'avoir une sépulture, de pratiquer leur religion, et qui se sont concrétisés des quartiers plutôt réservés à eux et qui pratiquaient la religion donc hindouiste en fait. Donc les cafres, voilà, moi j'ai découvert ces quartiers cafres et ça a été un choc pour moi. Alors Non pas que j'ai quand même, j'ai travaillé pratiquement 15-20 ans à Vouvenvelin, qui n'est pas un quartier particulièrement riche. Je suis allé au Mexique dans des endroits vraiment où la pauvreté est vraiment très forte. Mais c'est surtout que ce qui est étonnant, c'est qu'on est en Europe avec des infrastructures complètement francisées et brutalement, on est dans une poche de pauvreté dans laquelle vous avez l'impression qu'on est à Haïti ou dans des endroits d'une extrême pauvreté, avec des gens qui vivent quand même avec l'aide sociale française, mais qui sont... pour les garçons, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, qui ont la quarantaine et plus, des gens qui ont tous essayé de s'installer en métropole, parce qu'il y a très peu de travail à La Réunion, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de richesse naturelle qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, surtout qu'aujourd'hui, avant il y avait la culture de la canne à sucre, maintenant tout est mécanisé, donc on n'a plus besoin d'eux. Donc ils ont tenté de venir en France, ils ont tous raté leur voyage. Ils sont revenus en fait échoués à La Réunion avec la honte d'avoir à revenir en ayant perdu. Et tous sont, comme on dit, tombés dans l'alcool. Donc c'est des gens qui boivent beaucoup, 1,5 litre de rhum à 48 degrés par jour. Ils en sont là. Ils vivent du RMI. Ils ont tous eu des enfants. Ils sont tous séparés. Et aussi pour des raisons très simples, c'est que pour une femme, ça vaut plus le coup d'avoir l'allocation femme isolée plutôt que de vivre en couple. Donc eux vivent du RMI et les femmes, elles vivent de l'allocation femme isolée. Mais encore une fois, c'est pas toute La Réunion quand même. La Réunion, c'est un... y a quand même des côtés assez étonnants. C'est une île de grande tolérance religieuse. Ça, on le sait.
On le voit dans le film d'ailleurs. On a une image hindouiste à un moment donné dans dans la maison.
Oui. Lui-même va à l'église. Il va prier. Il regarde l'image du pape très vite. Dès que quelque chose se passe pas bien, il regarde. En tout cas, ceux qui m'ont marqué, c'est ces personnes donc de ce milieu social, de ces origines-là. Et pour moi, c'était un véritable changement. Moi, je suis donc métropolitain. Je fais des films depuis pas mal d'années maintenant. Et mon maître à penser a longtemps été Robert Bresson. Je me suis même un peu perdu dans Robert Bresson. c'est-à-dire que c'est redoublé par le fait que j'ai longtemps pensé que la France est un pays tellement... marqué par notre histoire de Louis XIV à Napoléon, que les émotions ne peuvent pas s'exprimer, dès qu'on est un peu excessif, j'en parle pour mon compte personnel, on est tout de suite un peu mis à l'index parce que ça passerait mal d'être un peu excité ou exalté. On n'est pas russe, j'ai travaillé chez les Russes, ça passe très bien, mais en France ça passe pas bien du tout. Et donc je me suis toujours dit... hystériser l'émotion en métropole dans un film, ça ne sert à rien, ça ne correspond pas à notre vie et on ne peut pas le faire. Donc j'ai toujours fait des films très serrés et brutalement, je voyais là des gens dans des situations assez extrêmes, mais aussi qui s'exprimaient et qui exprimaient leurs émotions de manière extrême, extrêmement chaleureuse, mais aussi extrêmement violente. Et ce débordement m'a vraiment intéressé et moi qui trouvais que le mélodrame ou la théâtralisation, tout ce qui était excessif, c'était impossible. Brutalement, j'ai trouvé un terrain dans lequel je me suis senti à l'aise, où je me suis reconnu. Et à partir de ce moment, je me suis dit, c'est là que je veux faire des films.
Et alors, comment vous avez travaillé avec le créole, qui participe aussi, je trouve, beaucoup à l'ambiance du film. Et un créole, comme vous le disiez tout à l'heure, avec du français dedans, une langue syncrétique, oui. En fait.
Ça fait donc 10 ans que j'y vais quand même, donc j'attrape quand même quelques mots, d'autant que le créole donc, de La Réunion est beaucoup plus proche du cajun ou du vieux français québécois que du créole des Antilles, qui est un créole qu'on comprend à peine quand on n'est vraiment pas du tout des Antilles. Donc déjà, on attrape des mots, mais en reconstituant à partir de ces mots, on peut se tromper parce que la façon dont les mots sont agencés, ça ne raconte pas forcément la même chose si vous mettez un mot à la fin ou un mot au début. Mais ça, c'est de l'ordre du secret, il n'y a que qui le savent. Donc moi, je peux me perdre là-dedans. Après, il faut savoir que la majorité des gens avec qui je travaille, ils parlent français. Ils comprennent le français. mais ils me répondent en créole. À partir du moment où mon projet initial était quand même d'écrire un film qui, au travers d'une fiction, va nous renvoyer ce que c'est que la réalité de cette vie-là, dans ces quartiers-là, pour ces personnes-là. Je ne pouvais pas faire un film en français, mais il fallait que les gens s'expriment dans leur propre langue et qu'ils arrêtent aussi d'être... d'avoir des complexes par rapport à ça, parce qu'au début, ils avaient un peu honte. Ils auraient bien voulu que le film soit en français, pensant qu'ils auraient une reconnaissance. Donc, je les ai convaincus que c'était l'inverse. En fait, ils parlent en créole, ils rêvent en créole. Il fallait qu'ils parlent dans cette langue. Voilà comment on a procédé concrètement sur le plateau de tournage, sachant que bien sûr il y a un travail en amont qui date de plus de 5 ans. C'est des gens que j'ai rencontrés il y a 5 ans, ceux qui ont les rôles principaux, avec qui j'ai déjà fait un premier film qui est un moyen métrage en 2010. Donc ils vont parler en créole, mais ils me comprennent quand je parle en français. Donc je donne les indications de jeu en français, sachant qu'ils ont des trous dans la tête, parce qu'ils sont, sont détruits par le rhum. Depuis 20 ans, ils boivent un litre et demi de rhum par jour, donc. Et ils ne peuvent pas mémoriser. Ou ils ont vraiment des gros problèmes de mémorisation, donc il est impossible de leur demander d'apprendre des dialogues. Et puis, c'est impossible, mais moi, ça ne me gêne pas, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ils trouvent leurs propres mots à partir d'un canevas que je vais leur proposer. À partir de dialogues qui ont été écrits, sur lesquels j'ai écrit un scénario avec des dialogues, et j'ai eu de l'argent sur ce scénario qui est une continuité dialoguée, mais que je remets en question ou que je leur transmets de façon à ce qu'ils l'emportent plus loin, pour que quand ils vont jouer, je récupère ces éléments, je me les fais traduire par mon assistante qui parle à elle créole, et ensuite je recompose mon scénario, ma scène, mes intentions, de façon à enrichir mon histoire de tout ce qui peut sortir et qui vient de manière impromptue. Alors, je leur disais, voilà, on va tourner tel plan, parce qu'ils ne voulaient pas non plus que je leur donne à lire le scénario, ils voulaient juste que je leur raconte l'histoire en 10 lignes. Et ensuite, ils m'ont dit, chaque plan, tu nous diras ce qu'il faut qu'on dise. Au début, à la fin et au milieu. Je leur disais, alors voilà, il y a ça au début, il y a ça à la fin, il y a ça au milieu. Bon, tout le monde savait un peu aussi comment le personnage devait se comporter, et ainsi de suite. Et après, ils avaient toute liberté pour s'emparer de la situation, du texte, et d'aller à leur rythme. Et ça fonctionne parce que chez les créoles de La Réunion, enfin chez eux en tout cas, et dans leur cercle, hein, parce que c'est pas seulement eux comme personne, mais globalement, c'est un monde en représentation, tout le temps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vivent quelque chose d'absolument tragique dans leur vie, mais il est impossible pour eux de reconnaître que ce qu'ils vivent est tragique et qu'ils vont tous mourir très vite, par exemple. Bon. Donc, ils sont tout le temps dans une situation où ils jouent. Ils jouent la bonne humeur, ils jouent l'énervement, ils jouent aux cartes, ils jouent à s'inventer des situations auxquelles ils essayent de croire, aidés en ça par l'alcool, bien sûr. Hein, les journées passent plus vite, on s'ennuie moins. Et donc, l'idée d'être en représentation, c'est une idée, on peut dire, culturellement, ça leur appartient. Donc, faire un film en demandant à ces personnes de se représenter devant une caméra, en sachant que je travaille avec eux, c'est un travail qu'on fait ensemble, c'est pas un film sur eux, c'est un film avec eux, cette idée-là n'est pas fausse. Et elle est d'autant moins fausse, à mon avis, que des gens comme Jean Rouge, par exemple, ont pratiqué cette manière-là de faire avec des personnes pour faire Moins Noir et pour faire la majorité des films qu'il a fait. Et ce n'est pas une façon de se défausser ou de dire, ben, les comédiens ils font bien ce qu'ils veulent, puis nous, on capte ce qu'il y a, puis après, on verra bien au montage. Non, c'est un travail qui est incessant, qui est assez épuisant d'ailleurs, parce que tous les soirs, je revois tout, je reprends les choses, je développe le personnage, je le réduis, je réinvente des scènes. Et c'est épuisant pour toute l'équipe, parce qu'il faut constamment changer le plan de travail. Et voilà.
Vous dites, les comédiens, en fait, ils le sont devenus avec vous, en fait.
Alors là, il y a à peu près une quinzaine de rôles dans le film. Hein. Il y a deux rôles principaux et puis en tout une quinzaine. Il y a deux acteurs, deux comédiens professionnels qui sont dans le film. Un qui s'appelle Didier Ibao, qui est quelqu'un qui a déjà joué dans un de mes films il y a maintenant 8 ans et que j'adore. et qui a d'ailleurs une histoire familiale assez proche de ses autres garçons et qui a très vite compris comment il fallait être, comment il fallait modifier sa façon d'être dans le jeu par rapport à... il n'était pas sur une scène de théâtre, quoi. Il pouvait pas, voilà. Et puis un autre comédien qui s'appelle Camille Bessière-Mitra, qui est aussi quelqu'un qui est très proche de ces gens, qui a absolument compris. Je défie quiconque dans le film de savoir qui est comédien et qui ne l'est pas. Et je pense même que ça a été un accélérateur. C'est-à-dire chacun a voulu prouver à l'autre qu'il était capable d'être à la hauteur. Mon rêve d'ailleurs, ça serait d'adapter un livre d'un écrivain qui a connu sur l'île, qui s'appelle Axel Gauvin. Et qui a écrit un livre qui s'appelle Train Fou. Et moi, j'adorerais pouvoir faire. Il y a le rôle d'un expatrié, un mec vieux, assez. J'adorerais faire travailler Depardieu avec ces personnes-là, parce que je pense que Depardieu pourrait rentrer dans cette relation-là, en fait.
Et vous avez pris contact ?
Non, pour l'instant, non.
Donc, s'il nous écoute sur Fluxfort ?
Eh bien, qu'il appelle.
Non. Caroline ?
Oui, vous disiez que de ces personnages, qu'ils ont tous des trous dans la tête. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le spectateur, il perçoit ça de façon... Mais en fait, c'est quelque chose qu'on ressent. Et à l'image du créole qui est matiné de français et où on capte quelques mots, à l'image de cette culture dont nous, spectateurs métropolitains, on ne comprend pas tout, on se retrouve à découvrir des personnages dont on ne comprend pas forcément les motivations et on a l'impression qu'eux-mêmes, ils n'ont pas conscience ou ils ne savent pas forcément ce qui motive leurs actes, leurs paroles.
Oui, alors c'était exactement ça, le pari du film. C'était d'arriver à laisser vivre cette étrangeté, cette manière de ne jamais savoir si on est dans un rêve ou dans une réalité, si on est dans un rêve éveillé, hein, s'entend, ou dans une réalité... sans que le spectateur lâche l'affaire en se disant je n'y comprends rien et du coup ce film ne m'intéresse pas. Mon travail de réalisation a consisté à essayer de rendre dans le cours du récit le spectateur à la fois sensible à ça et à accepter les incohérences du récit et de l'espace dans lequel je voulais l'être. Si on prend le début, par exemple, l'exposition du film, on commence par une scène où quelqu'un sort d'un champ de canne à sucre, il a une machette à la main, il y a des éléments qui peuvent nous laisser entendre qu'on est dans une réalité, mais en même temps, c'est un peu curieux. Et puis, on croit avoir la solution, puisqu'après, le rôle principal est allongé sur un lit. On se dit qu'il dort, donc on est dans un rêve. Puis, il se lève. Son téléphone sonne et il va se planquer derrière sa case. Et puis, un copain qui est là le rejoint, lui dit que les gendarmes ont appelé, que la tête de son frère a été coupée. Et on rattache, on se dit « Ah, mais peut-être que là, ce qu'on a vu, c'était bien le meurtrier. C'était donc peut-être réaliste. » Puis ensuite, on ne sait pas si c'est un flashback ou si c'est dans la suite. Il ouvre ses volets. Hein, c'est en général le matin qu'on ouvre ses volets alors qu'on avait l'air d'être en pleine journée. Et il est face au tueur qui vient lui annoncer qu'il a tué son frère et qui vient même lui dire qu'il a du chagrin de l'avoir tué, mais que quand même il l'a énervé et que donc ça s'est passé comme ça. Bon. Donc il y a effectivement une série de situations un peu absurdes dans leur enchaînement. Et pour moi, c'est une manière de rentrer le spectateur dans un espace dans lequel il ne saura jamais tout à fait s'il est dans une réalité ou un rêve, sous-entendu s'il est dans la tête de Patrice, dans la tête de quelqu'un qui est alcoolique, qui a un monde déstructuré, qui vit dans un monde déstructuré, ou s'il est dans une réalité déstructurée. Moi, ça m'arrange, puisque je pense aussi que cette réalité est déstructurée. À La Réunion, nos repères pour nous, métropolitains, on est vraiment, c'est très déstabilisant, parce que si vous allez, je ne sais pas, en Afrique, chez les Papous, c'est clair, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes ailleurs, dans une autre cosmogonie, une autre culture, et vous acceptez ce qui vous paraît étrange comme faisant partie de la réalité. À La Réunion, il y a un millefeuille culturel. Les origines viennent de tous les côtés, et il y a un moment où vous ne savez plus.
C'était cette ambiguïté qui vous intéressait pour ce projet de
Alors,
film ?
Oui, ça, c'est sans doute, mais il n'y a que maintenant que je peux vraiment me le dire. C'est-à-dire que je pense que tous les films que j'ai faits ont à voir avec ça.
Avec l'ambiguïté ? Avec l'ambiguïté ?
Oui, avec le fait que on est l'espace réel est aussi un espace rêvé, et que l'espace n'est visible que par le filtre de notre sensibilité, de nos émotions, et l'espace n'existe que parce qu'on le regarde, sinon il n'existe pas, ou en tout cas s'il existe, il n'a pas besoin de nous pour exister, et donc il n'existe pas. Raconter objectivement un lieu et des personnes, c'est une entreprise qui me paraît absolument impossible. Donc pour moi, tous mes personnages sont des personnes qui naviguent sans jamais savoir qui est l'autre et comment il faut faire et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Oui. Il y a une forme d'inquiétude en fait dans tous mes films liés à ça. Et à La Réunion, il n'y a pas besoin de se fatiguer à construire des décors ou des machins, tout est là pour raconter ça.
Est-ce que les personnages féminins, c'est le sentiment que j'ai eu comme ça en regardant le film, sont quelque part plus structurés que les personnages masculins? On a cette femme qui l'a fréquentée, qui l'a quittée, qui dit qu'elle est mariée avec un homme qui travaille à la mairie. On la soupçonne d'être un peu intéressée par l'argent. Enfin, c'est un autre personnage qui dit ça. On a la petite voisine aussi qui, quand même, semble assez solide. On a une troisième femme, la sœur. La sœur aussi qui est là pour prendre soin de lui. Enfin, est-ce que les femmes sont aussi dans cette... Enfin, est-ce qu'elles sont aussi dans cette situation-là? Est-ce qu'elles ont un peu une position différente? Est-ce que c'était symbolique?
En tout cas, dans la réalité que je connais, que je fréquente, les femmes ont tendance à mieux s'en sortir. C'est-à-dire qu'elles ont plus souvent du travail, elles sombrent moins facilement dans l'alcool. Mais il faut aussi savoir que l'héritage culturel, l'alcool, traditionnellement, les femmes ne boivent pas. Vous prenez par exemple Patrice, la personne et pas le personnage. Patrice a 6 ans, son grand-père tenant une boutique, c'est-à-dire un lieu qui est un débit de boisson. Quand il allait voir son grand-père, il devait boire un verre de rhum pour prouver aux clients du grand-père que le petit-fils, il tenait la route. Et être un homme, c'est aussi savoir boire et prouver aux autres qu'en buvant, on ne tombe pas dans l'alcool. Donc il y a des défis auxquels sont confrontés les hommes dans cette société-là, auxquelles les femmes ne sont pas confrontées. Alors oui, il y a des femmes alcooliques, oui, il y a des femmes, mais d'abord, elles ne boivent pas dans des lieux publics, elles ne boivent pas à la boutique, elles boivent chez elles. Donc il y a des femmes qui boivent, mais effectivement, elles boivent moins. Mais reconnaissons qu'elles sont moins soumises à une pression culturelle pour se défendre, pour prouver qu'elles sont des hommes, enfin, qu'elles sont des femmes. Si on élargit, je pense que la société occidentale accueille plus facilement les femmes que les hommes, je crois. Si je fais un peu de provocation, on a toujours dit que les blancs, ou en tout cas les dominants, volaient les femmes des dominés pour pouvoir se les approprier. Hein, on a vu ça chez les Grecs, on a vu ça partout dans le monde. C'est plus facile pour les Occidentaux d'intégrer les femmes à leur société que de faire avec les hommes. Je répète, c'est un peu de la provocation, mais je ne pense pas être tout à fait le seul à le dire. Voilà. Bon, toujours est-il que moi, je n'ai pas voulu forcer les choses dans un sens ou dans l'autre. Ça correspond à ce que j'ai pu observer. C'est-à-dire qu'à La Réunion, souvent, les femmes s'en sortent mieux que les hommes. Et à quoi ça tient, je ne saurais pas dire, hein, mais... je pense qu'elles ont moins d'obstacles à passer. Et c'est paradoxal parce que pourtant, la société réunionnaise CAF est une société très machiste hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont battues à La Réunion. On ne peut pas dire non plus que le tableau est rose. Mais elles ont une force de caractère je trouve qu'elles s'en sortent mieux. Oui.
On sent pour rester sur cette question comme ça des rapports entre les genres, on sent à plusieurs reprises, je dirais, une sorte d'impuissance du personnage principal. On sent du désir qui circule avec son ex-compagne, avec la voisine. On sent que l'une et l'autre ont une sorte de retrait, presque une sorte de crainte pour l'ancienne compagne qui lui dit « on va pas discuter dans ta chambre, on peut discuter, mais on va ailleurs », alors que finalement la maison a l'air de faire 2 pièces, donc on comprend pas très bien pourquoi elle veut pas rester dans la chambre plutôt que dans la cuisine. Mais on sent comme ça quelque chose aussi qui circule et qui est entre les personnages, qui a un lien aussi finalement.
Oui. En tout cas, la société réunionnaise CAFRE est une société très pudique. Donc, qu'une femme vienne dans la case dont elle sait qu'elle est occupée essentiellement par des hommes seuls, c'est prendre un risque énorme par rapport à la rumeur publique. Et là-bas, ça s'appelle le « l'a-dit, l'a fait ». D'ailleurs, il y a même une radio qui fonctionne sur ce registre-là, qui s'appelle Radio Freedom, qui a été créée par un Ardéchois qui s'expatriait à La Réunion. Il a tout de suite senti que ça allait marcher. Il a fait une radio où tout le monde peut appeler et dire « Attention, au coin de la rue, il y a un moellon qui est tombé, ne marchez pas dessus. Attention, j'ai eu un cambriolage chez mon voisin, le voleur a les cheveux blonds, il a pris sa voiture et la plaque d'immatriculation. Voilà. » Ou alors pour signaler un embouteillage et autres. Donc le LADI l'a fait, c'est constitutif de la culture réunionnaise. Et une femme comme cette femme, comme Marie, qui vient dans la case de quelqu'un qui a pu être son copain il y a X années, c'est prendre un risque énorme d'être... Donc c'est très courageux de sa part, hein, voilà. Elle le fait parce que sans doute, elle aime bien cet homme, mais que pour elle, l'idée n'est pas d'aller à nouveau coucher ensemble. D'ailleurs, ce qui est une situation assez ubuesque, puisque pour lui, ça paraît évident qu'il a bien compris au début qu'il ne s'agit pas de ça. Pourtant, effectivement, il l'emmène dans sa chambre. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'ironie là-dedans. Et je trouvais ça pas mal qu'ils se retrouvent tous les deux à se dire qu'on ne comprend pas pourquoi on se retrouve dans la chambre, quoi.
Oui, une sorte de...
prédestination. Oui. Ouais.
Et vous parliez de la justice, donc de cette radio où on peut dénoncer son cambrioleur, donner cette description. Ça, on commence aussi par la demande de vengeance de la mère qui a perdu un de ses fils. Ça aussi, c'est une particularité qui peut surprendre. On est presque dans une tragédie grecque. Le fils doit venger par le sang. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça de...
Oui, alors, par exemple, on m'a dit que la vendetta n'existe pas à La Réunion. Mais elle existe en Albanie, en Corse et dans différents endroits du pourtour de la Méditerranée. Mais on m'a dit, ça n'existe pas à La Réunion. Et pourtant, il y a 4 ans, quand j'ai fait mon premier film, on tournait dans une case et on a discuté avec les propriétaires de la case, qui était une famille qui avait l'ensemble de toutes les cases du coin. Et dans la discussion, on s'est rendu compte qu'eux pratiquaient la vendetta. Donc je me suis dit, quoi qu'on en dise, pour moi c'est quelque chose que je peux amener dans un scénario, parce que effectivement cette pratique existe. Par ailleurs, la pratique des outils tranchants, couteau ou machette, quand vous ouvrez un journal à La Réunion, dans la rubrique faits divers, vous avez au moins chaque jour vous avez au moins 4, 5, 6, 10 meurtres à la machette ou au couteau. C'est l'outil de prédilection pour tuer, il n'y a pas d'arme, on prend la machette. Donc cette idée-là, elle ne m'a pas semblé fausse.
Vous le disiez, en fait, vous avez réalisé il y a quelques années un premier film à La Réunion, donc La Sac la mort se passe à La Réunion. Vous avez un projet en cours qui, lui, se passe à la Guyane.
Ah oui.
C'est Sac la mort, sont ces projets précédents qui vous amènent à la Guyane?
Oui, en fait, c'est un concours de circonstances qui m'a amené là-bas. Mon précédent film passait dans un festival à Cayenne. Et donc, j'ai découvert la forêt amazonienne. C'est un autre choc. Et pour le coup, une réalité vraiment différente. Là, on est vraiment chez les Papous, mais au sens où tout est différent. Et donc, j'ai eu envie de faire un film là-bas, en fait, et de remettre en question le système que je pense maintenant arriver à avoir mis en équilibre par rapport à La Réunion. Donc j'ai encore des projets à La Réunion, mais j'ai eu envie d'aller sur un terrain que je connais moins. J'ai effectivement le projet d'un film, lui aussi, qui s'inscrit dans une réalité qui est aussi celle de la Guyane, qui est très différente. D'ailleurs, le rôle principal, l'histoire, le personnage principal est un blanc, un métropolitain qui est indicateur dans la police et qui va commettre une énorme bavure en métropole et qui va continuer son travail en Guyane à la frontière brésilienne, dans lequel il va pour le coup être aux prises avec un univers réellement cauchemardesque et dans lequel il va réellement perdre les pieds.
Donc, Vous disiez pour Zach Lamore, c'est la rencontre avec des personnalités qui vous a donné envie aussi de faire un film. Là, la forêt amazonienne, donc ça veut dire que pour vous, des paysages, des territoires peuvent aussi être des moteurs à la création.
Oui, d'ailleurs, mon premier court-métrage, un film qui était vraiment très simple. Moi, je suis né à Chambéry et j'ai longtemps passé mes vacances dans les montagnes environnantes. Et donc, mon premier court-métrage, c'était l'histoire d'une petite fille un après-midi qui ramasse les foins chez des agriculteurs. Et c'est le paysage. Je suis parti du paysage. Et le point de départ du film, c'était le paysage, son existence et la perception qu'on en a. Et le côté assez effrayant qui est qu'effectivement, la nature, le monde n'a pas besoin des êtres humains pour exister. Et il y a un sentiment de solitude qui nous envahit. Enfin, Rilke dit ça très bien. Et c'est un film construit autour de ça. Donc oui, un espace, pour moi, peut être un élément déclencheur d'un désir d'histoire et de personnages, de rencontres. Oui, bien sûr, oui.
Alors, c'est la première fois que vous venez en entrevue.
Oui, il se trouve que je suis venu il y a très très longtemps pour un court-métrage, mais on va dire que ça n'existe pas. Ouais, c'est la première fois. Oui.
On va devoir vous laisser pour que vous puissiez partir, mais juste une dernière question. Votre film donc, est dans la compétition internationale, dans les premiers films, mais c'est vrai que vous ne faites pas partie des plus jeunes réalisateurs de la compétition. Pour vous, est-ce que ça change quelque chose justement? Enfin, comment est-ce qu'on...
Non, vous voulez dire mon âge? Est-ce que ça change quelque chose?
Oui. Enfin,
non, ça change rien pour moi.
Est-ce que ça met plus de distance par rapport aux enjeux des prix ou...
Non, absolument pas. C'est ce qui est terrible quand on participe à une compétition, c'est qu'on est rebalancé comme quand on était à l'école et qu'on attendait les retours sur les notes. C'est un sentiment que je déteste et je suis obligé de reconnaître que je l'ai moi aussi et que j'aimerais gagner et que c'est un moteur aussi pour faire des films. L'idée d'arriver à imposer son regard par rapport aux autres, c'est un métier de chien, mais sur cet aspect-là, mais on ne peut pas le nier. Et en même temps, c'est un élément moteur qui, moi, m'a permis de tenir alors que j'ai eu des hauts et des bas, et plutôt des bas que des hauts d'ailleurs. Voilà, donc non, je ne le nie pas. Hein, et je joue le jeu.
Très bien, mais merci beaucoup d'être venu nous voir, Emmanuel Parot.
C'est moi, merci beaucoup.
Fluxfor.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Love every once in a while. Love.
I'm a pickle, I just my heart beats, feel like a pickle, feel.